Pascal 1718 avec Fulgence Plat au micro et Nicolas Vatman à la technique. Oui, aujourd'hui c'est mercredi, ça veut dire qu'on va parler de plein air et de loisirs avec le chroniqueur de plein air et de loisirs Stéphane Bautry qui sera avec nous en ligne. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Anne D'Amour McDonald qui est la fondatrice de Galerie A à Québec, dans la vieille capitale. Restez à l'écoute pour ceux qui aimeraient bien découvrir ce nouvel espace. Là-bas, restez à l'écoute. En deuxième partie d'émission, je vais la recevoir. Elle va nous parler de cette nouvelle galerie-là. On part tout de suite en musique, comme d'habitude d'ailleurs, pour démarrer l'émission. G.S. Ondara, Lockdown on Date Night Tuesday.
Honey, the restaurant's closed, and all the buzz around. I haven't seen you in your clothes for a little bit of town. Every Tuesday we went to Chinatown before it was all closed down. I'm gonna put my gray suit on. If you will put your red dress on, I'm gonna meet you at the dining table. I'm gonna meet you at the dining. President said we gon' be here for a while. Your parents out in the bay, they're still in denial. Don't know how long it will be, but until then you're still mine. I'm gonna put my gray suit on. If you will put your red dress on, I'm gonna meet you at the
J.S. Ondara, Lockdown on Date Night Tuesday. Voilà. Notre invité déjà, pas notre invité, notre chroniqueur de plein air et de loisirs, c'est pas notre invité, il fait partie de l'équipe, alors il va m'en vouloir aujourd'hui là. Stéphane Beautry, bonjour à toi.
Bonjour Fulgence, comment ça va?
Je vais bien, merci, et toi?
Très bien, merci.
Alors, tu nous as choisi aujourd'hui le domaine enchanteur.
Oui, qu'on connaît bien aussi sous le nom de domaine de la forêt perdue.
Oui, ça me dit quelque chose. Hein. J'ai déjà entendu ça, domaine de la forêt perdue.
Oui, et pourquoi la forêt perdue? Il faut savoir qu'il y a environ 25 ans, le propriétaire du terrain, de la terre, le propriétaire agricole, avait décidé de faire pousser des pins pour en faire le commerce.
Ah, OK. C'est de là que vient le nom...
Ce qui est arrivé après ça, c'est que c'est dirigé plutôt, c'est plutôt intéressé ensuite à l'apiculture, là, les abeilles, le miel et tout ça.
Oui.
Et donc, il voulait trouver une façon de pouvoir écouler son miel. Et aussi, dans ces moments-là, aussi dans ces temps-là, il y a aussi quelqu'un, il y a eu un incident presque tragique, quelqu'un a failli se noyer en faisant du patinage sur un cours d'eau gelée.
Oh.
Et il est venu l'idée de faire des sentiers de glace à l'intérieur de la pinède. Les gens, ça a attiré les gens du coin en premier et ensuite des gens de plus en plus loin. Et ça a attiré, c'est devenu un bon moyen aussi d'écouler le miel en plus de, d'offrir un parcours glacé.
OK, c'est comme ça qu'est né le domaine enchanteur.
Exactement.
Oui.
Alors, c'est vraiment, on parle d'un magnifique labyrinthe glacé et c'est connu de très loin.
Oui.
Il faut penser que c'est 15 km de sentier glacé en forêt, pour le patin. Alors, on se promène comme si on faisait une randonnée à travers une forêt.
15 kilomètres.
15 kilomètres de sentier. C'est un labyrinthe, là. Alors, ça se recoupe et tout, mais il y a 15 kilomètres de sentier. C'est 5 kilomètres de randonnée à raquette aussi, où on se promène un peu dans les champs, parce que c'est ça, la forêt perdue.
Oui.
On s'entend que c'est une forêt au milieu de champs agricoles. Alors, c'est pour ça qu'elle a eu le nom forêt perdue.
Ouais, je me suis dit, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, ça dit que c'est une forêt dans laquelle, quand on part là-bas, on se perd complètement, quoi.
Ah, ben, labyrinthe est bien intéressant. C'est assez grand. Il y a un parc animalier aussi. Il y a possibilité de faire acheter les patins, louer de l'équipement sur place.
Oui.
D'ailleurs, le site web décrit beaucoup là, au niveau de la location et tout, c'est le domaineenchanteur.com. Tout en un mot, domaineenchanteur.com.
Ouais.
Ça se trouve à être à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, au 1180 rang Saint-Félix. C'est à 20 minutes de Trois-Rivières, environ.
À 20 minutes, alors, 20 minutes en voiture de Trois-Rivières.
On part Trois-Rivières, Shawinigan, puis c'est là.
OK. OK.
Comment s'y rendre? Ben, en voiture de Montréal, on part de la sortie de 203 Nord de l'autoroute 40. C'est environ 1h30, 1h45 de Montréal.
Oui, oui. OK. Ouais, ça se fait très bien. Ça se fait très bien, là.
Oh, oui, ça se fait très bien. C'est la 40 presque tout le long. Mmh. Alors, c'est bien. C'est un endroit, comme je dis, on peut faire du patin dans la forêt sur des kilomètres de sentier. C'est disposé c'est aussi, il y a une zamboni qui passe deux fois par jour pour s'assurer de la qualité de la glace.
Oui.
Les deux tiers du parcours sont illuminés le soir, même si c'est quand même recommandé de porter une lampe frontale, parce qu'il y a quand même des endroits de pénombre.
Oui.
C'est très agréable le soir de se promener là.
Oui.
Le parc animalier.
Oui, Stéphane, quand on parle de labyrinthe, il faut s'attendre à ça. C'est pas éclairé partout.
Oui, effectivement. Puis le parc animalier, c'est vraiment une belle occasion d'admirer puis de nourrir les animaux familiers puis des fois moins familiers. On parle de lamas, alpagas, des daims, des chèvres, des moutons, des émeus, ânes, poules, les oies. Il y a de tout.
OK. On peut les nourrir. C'est autorisé, c'est permis de les nourrir.
Oh oui, on peut les nourrir. Oui.
D'accord, OK.
Et c'est quand même intéressant. C'est comme une petite ferme. Et c'est ça. Juste la visite du parc animalier, c'est facilement une trentaine de minutes. Là. Alors, ça se fait quand même. C'est vraiment intéressant.
Oui.
Alors, les sentiers sont disponibles aussi aux randonneurs.
Oui.
Puis il y a même un labyrinthe suspendu, un peu à la façon d'Arbraska ou Voile en voile. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à Voile en voile qu'on peut voir dans le Vieux-Port, à Montréal.
Oui.
Il y a une piste d'hébertisme avec des passerelles. Il y a plusieurs activités aussi. La chasse aux pierres magiques. On peut aussi voir l'élevage des abeilles. Ils font de l'élevage des vers de farine aussi. On peut aller voir ça. Puis il y a une balade en petit train. Ça, c'est l'été. Il y a comme d'autres choses. Fait que c'est vraiment été comme hiver, il y a toujours quelque chose à faire là-bas.
Oui.
C'est très intéressant.
Les heures d'ouverture?
Ben, jusqu'au 25 février, du lundi au mercredi, c'est de 9h à 18h30.
Oui.
Du jeudi au dimanche, c'est de 9h à 20h. C'est pas facile, c'est rare quand même d'avoir des endroits de loisirs et tout extérieurs qui sont ouverts quand il fait noir.
C'est vrai.
Alors,
c'est vrai.
C'est quand même une belle occasion.
Une belle occasion, oui. Pour ceux qui aiment quand même malgré l'obscurité, avec la lampe frontale, être dehors quelque part, quoi, en pleine nature.
Exactement. Puis du 26 février au 13 mars, si la météo est favorable, c'est de 9h à 21h tous les jours. Parce que c'est sûr que si toute la glace est fondue, rendue au 1er mars.
Oui.
Sur le site, d'ailleurs, ils vont avoir en haut à droite, ils disent toujours l'état des sentiers.
Ouais.
Ils vont dire si les sentiers sont beaux, si ont été déblayés et tout, c'est toujours mis à jour.
OK, c'est bien beau tout ça, mais ça coûte combien?
Ah, mais premièrement, c'est fortement recommandé de réserver en ligne, mais c'est pas obligatoire.
Tu sais quoi, Stéphane?
Stéphane,
tu sais quoi? Je m'attendais à la gratuité.
Non, c'est pas gratuit. Pour un adulte,
avec les parcs, que tu nous fais découvrir, là, je me suis dit, si on doit payer tout le temps, tous les parcs, on finira par avoir un budget spécial pour les parcs, quoi.
C'est pas très cher, je trouve, pour une journée de loisirs.
Ça coûte combien pour les adultes et puis combien pour les enfants?
Mais pour les adultes, c'est 22$.
Oui.
Les enfants de 5 ans à 17 ans, c'est 20$. Comme je dis, les sentiers sont quand même très bien entretenus.
Oui, parce que est-ce que ça fait partie de l'association, comment ça s'appelle, des parcs, là?
Non, ça fait pas partie de la CEPAC.
Oui.
Ça, c'est vraiment un terrain agricole. C'est pour ça que c'est important de savoir que ils sont soumis à la loi sur la protection du territoire.
Ah.
Et activités agricoles. Donc, ils sont autorisés à laisser la clientèle se promener dans les sentiers.
Oui.
À condition qu'il y ait comme que la production agricole soit encouragée. Donc, dans le prix du billet que je mets, que j'ai dit, 22$ pour les adultes et 20$ pour les enfants.
Oui.
Il y a un produit de la ferme qui vient. Ça peut être un pot de miel ou ça peut être des vers de farine. Je pense que moi, je préfère manger le pot de miel, mais ça, c'est chacun son choix.
Oui.
Et donc, ça vient avec. Ça veut dire que si on y va, disons, à 4, ben, on paye le prix et on se retrouve avec 4 produits agricoles aussi.
Wow. Non, c'est pas cher dans ce cas-là. C'est comme si c'était le produit que je payais au lieu de payer l'entrée, quoi.
Exactement.
Chacun peut interpréter comme il veut.
Et c'est produit sur place, là. Alors, on a du miel qui est produit là.
Ouais.
Il faut le passeport vaccinal obligatoire avec preuve d'identité, parce que les patins doivent être chaussés à l'intérieur.
Oui.
Ils ne veulent pas que les gens les chaussent dans le stationnement.
Mmh.
Il y a des bâtiments chauffés. Il y a un petit casse-croûte où là, présentement, depuis le 31 décembre, on peut seulement aller chercher au comptoir. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a une boutique et aussi les animaux. Les gens sont quand même un peu plus tassés à cause des rassemblements. Alors, ils insistent sur le passeport vaccinal.
Oui.
Et il y a des tables pour manger à l'extérieur du casse-croûte. Les chiens sont admis en laisse sur les sentiers. Ils demandent un don volontaire à l'action communautaire et bénévole locale. Alors, apparemment, ça fonctionne très bien. Les gens peuvent amener leurs chiens et tout, et ils donnent ce qu'ils veulent pour aller se promener avec leurs chiens sur les sentiers glacés.
Mais il faut les tenir en laisse.
Oui, il faut les tenir en laisse.
Il ne faut pas les laisser à leur guise, là. Voilà.
Non, puis j'imagine, là, quand on est en patin, on tenir un chien en laisse, ça peut parfois être un défi, mais ça peut aussi...
Oui, il y a des gens qui le font quand même. Il y a des gens qui le font.
Oh, oui.
Il y en a déjà vu à Montréal ici, c'est vrai. Alors, pour conclure...
Alors, le domaine de la forêt perdue, ou le domaine enchanteur, mm-hmm. est un endroit incontournable l'hiver pour les amoureux du patin et les promenades en forêt. Les nombreuses activités...
Ça lui fait d'une pierre deux coups en même temps, quoi.
Exactement. C'est les nombreuses activités du domaine seront émerveillées tous et chacun mm-hmm. pendant toute la journée. Puis on dit quand même, c'est quand même à moins de 2 heures de Montréal.
Ouais, presque 2 heures de Montréal. Ouais. 45, 1h45, 1h30, 1h45, 2 heures. Voilà.
Alors, exactement.
Merci beaucoup, Stéphane.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, à mercredi, oui. à la même heure, sur les ondes du canal. Mais allez, porte-toi bien. Bonne soirée à toi. Hein.
Merci. Bonne soirée à toi aussi.
Au revoir.
Au revoir. Ouais.
De un pesar profundo entre las penas sin nombre, yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo.
Guantanamera, Guajira,
como
Playing for Change, Song Around the World, oui, le manière, interprétation de Guantanamera. Ça, c'est un classique, hein. Je sais pas combien de versions de Guantanamera, un millier de versions de Guantanamera. Et c'est, ça tient toujours le chemin. Voilà. Je vais parler un peu de tennis. L'ATP, c'est l'association de tennis professionnel, bien sûr, qui confirme que les joueurs non vaccinés seront interdits de jouer en France. Voilà. Voilà, ça, l'Australie a donné l'exemple, hein, où il est non vacciné, ils n'ont pas le droit. Et comment est-ce que tu veux te retrouver sur un terrain de tennis avec un joueur vacciné? Alors, si c'est interdit partout. Alors, l'Australie a appliqué les règlements, bon, mais les autres tournois vont suivre. C'est pareil, donc c'est sorti aujourd'hui dans l'ATP. A alerté les joueurs, d'ailleurs, sur les conséquences. Ils ont reçu des mots, des courriers, des machins comme ça, de l'application de la loi de passe vaccinal. Même si elle attend des éclaircissements de la Fédération française, ça se passe en France, hein, et que dans ce communiqué envoyé aux joueurs et les conséquences de la mise en place de cette loi, c'est interdisant aux athlètes non vaccinés de participer à toute manifestation sportive à partir du 24 janvier et le tournoi Challenger de Quimper. C'est vraiment triste, hein, ce qu'il a provoqué là, Djokovic. Voilà, c'est vraiment triste. Il a ses raisons, hein, je respecte. Il a ses raisons que je respecte. Mais il doit assumer. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, c'est... Donc les joueurs non vaccinés ne pourront pas participer au tournoi en France. Voilà, les joueurs devront être entièrement vaccinés pour pouvoir concourir ou avoir un certificat médical les dispensant de la vaccination pour des raisons médicales. Pas venir comme Djokovic pour dire parce que j'ai eu le virus il y a 2-3 semaines que je me suis fait délivrer une exemption médicale. Non, c'est pour des raisons médicales, oui, si tu n'as pas droit au vaccin, mais pour des raisons médicales, bon, tu ne peux pas jouer au tennis non plus. Voilà, ça, on ne parle pas des spectateurs, hein, on parle des joueurs de tennis. Donc, il y a, selon l'ATP, il existe aussi encore un doute à savoir si les joueurs qui sont récemment remis du Covid, d'ailleurs, seront autorisés à prendre part aux différents matchs, à moins qu'ils n'aient reçu au moins une dose d'un vaccin à deux doses, ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Alors, à bon entendeur, salut! Alors, Rafael Nadal, il passe au troisième tour. Ça n'a pas été un problème, hein. Oui, c'est facilement. Il n'a pas connu de grands problèmes en s'imposant en trois manches d'ailleurs devant l'Allemand issu des qualifications. Yannick Hanfmann, 6-2, 6-3, 6-4. Ça a été très facile, il est parti très vite. Voilà, il est très content, hein. Il s'est remis de son coronavirus là, il pète la forme. Et puis, il y a Alexander, l'Allemand, Zverev, qui se qualifie aussi sans trembler pour le troisième tour. Lui, il a battu l'Australien John Millman 6-4, 6-4, 6-0. Et puis, il y a l'Australienne, la première mondiale, bien sûr. Dame, bien sûr. Ashley Barty qui se qualifie pour le troisième tour de l'Open de façon express. Les spectateurs qui sont arrivés en retard n'ont même pas pu voir sa qualification. Ça allait tellement vite. J'ai vu le résumé du match. En 52 minutes, c'était fini. Elle avait fini d'écraser 6-1, 6-1. Donc, elle a validé son ticket pour le troisième tour. Voilà, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on revient avec une première pièce musicale. Et ensuite, je reçois la fondatrice de Galerie. Hein, et on va parler un peu de nouveau site, de nouvel emplacement de cette galerie-là dans la vieille capitale. Restez à l'écoute. À tout de suite. On vous revient.
Écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Ah oui, c'était Java, on sait beau. Voilà, notre invitée déjà au bout du fil, Anne D'Amour McDonald, la fondatrice de Galerie A, d'ailleurs, qui doit être très contente d'avoir trouvé un nouveau local, une nouvelle adresse pour cette galerie, d'ailleurs, et qui a démarré, voilà, à ce nouvel emplacement depuis le vendredi 14 janvier 2022, si je ne me trompe pas, vous voyez. C'est pas 2021, mais c'est 2022. Alors, et je pense bien que ça se passe bien. Les gens ou bien les acteurs, les artistes qui exposent là-bas en ce moment. Et bonjour Anne D'Amour McDonald, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien. Merci de me recevoir. Puis, effectivement, vous avez dit, on est très contents.
Oui, du nouvel emplacement, oui. En plein cœur du secteur le plus artistique de Québec.
Oui, ben.
Comment vous avez trouvé ça, ce bel emplacement-là?
Ben, pour les gens qui connaissent un petit peu Québec, là, Saint-Roch, c'est vraiment un lieu où gravite toute la communauté culturelle de Québec. Il y a beaucoup d'ateliers d'artistes dans le secteur. Il y a l'École des arts visuels. Il y a le complexe Méduse qui rassemble là, plusieurs centres d'artistes majeurs à Québec. Donc, vraiment, les artistes, la communauté, puis les gens qui suivent ces artistes-là, les collectionneurs, les gens qui visitent les expos, de fait, sont aussi autour de ce secteur-là. Mmh. Pour votre question, comment on a trouvé ce local-là, vraiment, ça nous a pris presque un an, là, en contexte de pandémie, à faire les suivis avec les promoteurs qui sont très présents dans le secteur, à rencontrer des propriétaires qui ont aussi plusieurs adresses. Puis on voulait prendre notre temps. La pandémie, ça nous a donné cette occasion-là que, bon, tout était annulé, reporté. Il y a eu beaucoup de temps mort dans notre secteur, mais ça a libéré du temps pour nous permettre de vraiment chercher, faire beaucoup de visites. On a visité là, une trentaine d'espaces. Donc, on voulait vraiment un lieu où on serait chez nous, où on serait un lieu à notre image où on serait heureux de présenter et d'accueillir les visiteurs.
Oui, être entouré d'artistes en même temps, ça c'est clair, ça c'est vraiment galerie. Ouais, la galerie est accessible plus que jamais. Les gens pourront arrêter et vous chercher dans des espaces pop-up ou bien vous aurez une belle attraction. Mais c'est, de toutes les façons, je me suis dit, si elle a trouvé cet emplacement-là, c'est parce qu'elle voulait se retrouver aussi entourée d'artistes.
Mais oui, complètement. C'était déjà depuis les débuts très important pour la galerie. Notre premier local était dans le Vieux-Port de Québec, dans un bâtiment qui est à la base dédié à des ateliers d'artistes.
Oui.
Donc, notre premier local, ça a été là. Puis ça a toujours été important d'être proche des ateliers, proche de la création, parce que nous, ce qu'on présente comme exposition, ce sont des expositions inédites, des œuvres qui sortent de l'atelier, parfois sont à peine secs là, parfois quand on les met sur les murs. Donc, la proximité de notre communauté d'artistes de Québec, ben, c'est très important parce que c'est leur travail qu'on présente chez nous.
Oui. Alors, comment ça se passe? C'est vous qui approchez les artistes ou bien c'est les artistes qui vous approchent?
Je voudrais une question qu'on fait beaucoup poser. Dans les débuts, j'avais lancé des appels de dossiers pour dire, bon, si jamais vous voulez présenter votre travail, contactez-moi, etc.
Oui.
Donc, il y a beaucoup d'artistes qui nous contactent. Puis là, on est très présents avec l'ouverture de la galerie dans les médias. Donc, je dirais, on a encore plus d'artistes qui nous contactent.
Wow.
Et on regarde toujours attentivement les dossiers, les sites Internet, des choses que les gens nous envoient.
Oui.
Mais la réalité, bon, c'est qu'on a déjà, on représente déjà 12 artistes de Québec.
Oui.
Et puis, on en a aussi quelques-uns qui attendent là, d'être représentés. Donc, on n'est pas en recrutement tant que ça. Donc, souvent, on n'a pas l'opportunité d'accueillir de nouveaux artistes. Mais quand il y a des dossiers qui nous sont envoyés, parfois, on a des belles surprises. Puis, des fois, il y a des espaces dans le calendrier qui se libèrent. Puis, on invite des artistes là, comme ça à venir présenter là, une exposition. Ça devient des belles surprises, mais je voudrais que c'est les deux. C'est des relations. Donc, autant moi, à la galerie, j'ai la chance de présenter des artistes avec qui j'ai des relations de longue date, mais on rencontre des gens là à tous les jours, puis il y a des nouvelles relations qui se développent là, à tous les jours.
Oui. Alors là, moi, je vais poser une question un peu personnelle, Anne D'Amour. D'où vient cet amour pour les galeries, pour les arts en général?
D'où vient cet amour pour les arts? Ben, je pense que je suis une personne très sensible à la culture depuis très, très longtemps.
Oui.
Moi, j'ai fait le choix d'aller faire une maîtrise en arts visuels pour vraiment baigner dans le monde artistique pour faire ma création et tout ça.
Mmh.
Et ce que j'aimais, à force d'étudier et d'évoluer dans ce milieu-là, j'ai réalisé que moi, ce que j'aimais le plus de la démarche de l'artiste, c'était l'exposition. C'était là, le point final où on peut mettre tout ça en espace. Okay. Puis présenter l'œuvre au public.
Oui.
Tout est bien que chaque artiste peut produire un nombre maximum d'expositions par année. Moi, je me suis dit, ah, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les artistes à Québec.
Oui.
Je vais ouvrir un nouveau lieu, je vais l'administrer, puis je vais vraiment ouvrir une galerie. Donc, c'est vraiment emmené comme ça, le désir de vouloir produire des expositions.
Oui.
Et pas juste les miennes, puis je me suis rendu compte en fait que j'avais pas vraiment d'intérêt à présenter mon travail comme tel. Ce que j'aimais, c'était organiser des expositions. Puis organiser des expositions des autres, c'est vraiment un plaisir parce que t'as vraiment l'impression d'offrir une opportunité à quelqu'un de présenter son travail, d'aller chercher un revenu, t'as l'impression de contribuer à sa démarche, contribuer à sa réussite. Puis ça, c'est vraiment très gratifiant. Oui. Dans mon travail.
Vous donnez à vos collègues artistes, disons, une vitrine, quoi.
Mais complètement, complètement.
Et puis c'est bien, c'est tellement bien situé. Quand j'ai vu, j'ai reçu le communiqué d'attention, c'est entre les salons d'Edgar et puis la galerie 3. Ouais. Donc l'arrivée aussi de votre galerie, galerie A, bon, donc ça va être... peut-être qu'il y a une autre galerie ou bien vous allez créer galerie A 2.0, on ne sait jamais. Quand ça va grandir. Pourquoi est-ce que la majorité de vos artistes sont de la jeune féminine?
Il y a un côté important pour moi qui est ma sensibilité envers le travail de certaines artistes femmes autour de moi que je tiens à présenter. Et puis, quand j'ai lancé, ou du moins quand j'ai écrit mon plan d'affaires il y a 5 ans, puis que je me suis penchée sur la question,
oui.
J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'artistes masculins représentés en galerie commerciale.
Oui.
Puis en proportion, il y avait vraiment moins de femmes. Du moins, quand j'ai fait ma recherche il y a 5 ans, il y avait significativement moins de femmes dans les galeries commerciales. Puis moi, j'avais trouvé ça inacceptable à l'époque
ouais.
où on parle déjà de parité, de représentation.
Ouais.
De...
J'ai dit, ouais, je vais demander à Anne Damo, pourquoi est-ce qu'il y a... J'ai pensé un peu à ça, mais j'aimerais bien que quand vous le dites, là, les auditeurs vont savoir pourquoi est-ce que la majorité de vos artistes là-bas sont de la jeune féminine. Quoi. C'est de la jeune féminine, ouais, c'est vraiment... Ah, merci, merci beaucoup. C'est, je sais pas, mais la plupart du temps, mais vous n'avez pas fermé la porte aux artistes masculins, quand même, aux hommes. J'ai vu quelques noms là, on va en parler un peu plus tard. On fait une petite pause musicale.
Merci.
Oui, et puis on revient.
Prise de constater que je t'ai tombé ses nerfs. Changer ça, je pense que je vais rien faire. Pas question de culpabiliser, pas mal filer. Ou me questionner, même si je sais que je peux rien changer. À ceux qui nous aiment, les autres qui mangent un char. La vie est trop courte pour endurer des broyards. À ceux qui nous aiment, les autres qui mangent un char. Trouve-toi donc une passion ou va jouer dehors. Profiter de la vie, puis faire le vide.
été fortir ceux qui nous aiment. Les autres, voilà, c'est pas moi qui le dis, vous avez écouté les paroles. Notre invitée est toujours avec nous, la fondatrice de Galerie A, Anne Damour McDonald. Moi, je dis bravo, mais quelle est la grandeur de la galerie, s'il vous plaît?
Donc, on a un beau local commercial, vraiment une belle dimension. On a commencé en ouvrant les 500 pieds carrés à l'ouverture, à l'entrée du local. Donc,
500 pieds carrés?
Oui, donc c'est assez petit, assez intimiste. C'est vraiment un espace où vous allez pouvoir découvrir des expositions individuelles. Donc, c'est vraiment une belle dimension pour des petites expos comme ça. Mm-hmm. Et puis, graduellement, on a des bureaux à l'arrière qui vont être convertis en espace d'exposition supplémentaire à l'été.
Oui.
Mais on voulait ouvrir le plus rapidement possible puis commencer à recevoir le public. Nous, ça fait un an qu'on est en événement pop-up puis qu'on est vraiment à un minimum d'événements. On a fait quelque chose à Québec et à Montréal cet été.
Oui.
Mais vraiment, on a eu une petite année l'année dernière, malgré qu'il y a eu Art Toronto puis Papier qui nous a aussi bien occupés, là, qui sont deux grandes soirées canadiennes.
Oui.
Mais on avait hâte de recevoir le public, donc on a fini les rénovations pour la devanture, l'entrée, en ouvrant un premier espace d'exposition de 500 pieds carrés.
Oui.
Ce qui nous donne vraiment quand même une belle surface de mur là, pour présenter.
Oui, c'est pas petit quand même. Ouais.
Respectable, ça va.
Bon, ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Comment vous vous arrangez avec la pandémie? Comment ça se passe là? Quel est l'impact la pandémie a pu avoir sur cette histoire d'exposition, les visites avec les artistes, la communication? Comment ça se passe?
Mais merci pour votre question. D'ailleurs, je voudrais prendre le temps d'être à l'antenne pour saluer tous les amateurs d'art qui ont fait des achats pendant la pandémie, que ce soit en ligne ou en communiquant par courriel avec les galeries.
Oui.
Moi, de mon côté, pendant la pandémie, on est allé beaucoup vers le web. Donc, on a modélisé, là, comme un peu quand on essaie de vendre une maison, souvent on va venir scanner là, notre maison, mais on a fait un peu la même chose avec les expositions.
Oui.
Puis, on doit dire, même si on sentait avant la pandémie une grande réticence au virtuel encore là, sur le marché québécois pour l'achat d'œuvres d'art, bien, la pandémie est venue tout changer ça. Les collectionneurs, le public, tout le monde était au rendez-vous pour soutenir les artistes à travers l'achat d'œuvres d'art.
Mm-hmm.
Puis ça, vraiment, chapeau à tous ceux qui ont fait des acquisitions pendant la pandémie puis qui étaient là pour soutenir tout ce secteur-là.
Mm-hmm.
Parce que quand vous achetez une œuvre en galerie, ça nous permet d'embaucher des réviseurs, des traducteurs, de payer des artistes, de payer la production des prochaines séries, etc.
Oui.
Donc, pour nous, c'était vraiment important. Puis, on ne savait pas trop au début de la pandémie comment ça allait se passer. Et puis, on a passé une très belle première année. Tant qu'on s'est dit, mon Dieu, mais ça a trop bien été l'année passée. On va tout réussir à sauver une deuxième année de pandémie, aussi bien faire.
Oui.
Et puis, oui, les gens étaient au rendez-vous. Et puis, dès que les salles d'exposition ont pu être ouvertes, les gens étaient au rendez-vous, étaient là de plus belle façon encore, en ce sens que quand ils venaient visiter une exposition, ils voyaient la valeur d'être présents, ils prenaient le temps, ils s'intéressaient, ils discutaient, ils étaient très heureux d'être là. Donc, honnêtement, côté pandémie, comment on s'organise pour répondre à votre question? C'est sûr que c'est beaucoup de défis supplémentaires d'organisation, de jonglerie aussi avec les programmations. Il y a beaucoup d'expositions qui ont dû être déplacées, réorganisées.
Mmh.
Donc, à ce niveau-là, il y a eu un défi supplémentaire. Au niveau des communications aussi, c'est sûr que quand tout le monde parle de pandémie dans les médias, puis que là, l'univers de médiatique est très occupé par des nouvelles très importantes comme ça qui touchent à la santé publique.
Oui.
Bien, il y a moins de place un petit peu pour parler de culture, parler d'artistes, etc. Mais vraiment, le public était au rendez-vous, était sur les réseaux sociaux, était au bout du fil ou au bout de la souris, comme on
peut dire. Oui. Wow, génial. Génial. Alors, je pense bien que vous allez garder le système, même s'il y a un semblant de normalité qui revient. Anne Damour, vous allez garder un peu le système hybride, non, c'est-à-dire présentiel et en ligne en même temps. Parce que vendre en ligne, faire du commerce en ligne, c'est venu pour rester. Hein. Ça, on ne peut plus s'en passer.
Ben voilà, ça l'a fait qu'on arrivait en force pendant la pandémie.
Oui.
Ça l'a vraiment obligé les gens à se moderniser. Puis là, le système est en place.
Oui.
On va continuer à l'utiliser.
C'est ça.
Puis ben, c'est tant mieux.
Voilà. Est-ce que vous avez des coups de cœur parmi les artistes que vous recevez? Est-ce qu'il y a des artistes que vous préférez plus que l'autre? Ah, j'aurais aimé. Voilà, vous voyez quelque chose comme ça, ce genre. C'est un peu...
Ah, c'est une question grave, puis c'est difficile à répondre. Je vous dirais que il y a tellement d'artistes qui me contactent,
oui,
pour faire partie de la galerie, puis
oui,
pour pouvoir organiser des expositions, que les artistes que je représente sont déjà tous des coups de cœur.
Oui, tant mieux. Alors,
là,
vos artistes, là, les artistes qui posent actuellement la galerie, ah, si vous nous écoutez, vous êtes tous des coups de cœur pour...
Oh mon Dieu,
c'est pour... Non, je ne voulais pas que vous citiez des noms ici. Ah, ça, c'est mon coup de cœur. Non, c'est pour dire que... De toute façon, si vous les avez choisis pour les expositions, c'est que vous aimez le tableau, le travail, ça c'est clair. Alors,
j'aime beaucoup leur travail, mais aussi, je tiens à dire que je suis entrepreneur. Hein. Je travaille seule avec les artistes, puis pour moi, c'est important d'avoir beaucoup de plaisir,
oui,
avec les gens avec qui je travaille. Donc, je les choisis aussi pour leur qualité humaine, leur savoir-être.
Ouais.
C'est tous des artistes là, exceptionnels.
Pas seulement le tableau, mais aussi les liens interpersonnels. Voilà. Ouais. Et Anne Damour, parlez-nous un peu de La Nuit des Anguilles par Isabelle Demers.
Oui, ben, La Nuit des Anguilles, c'est une exposition qu'on présente en mars. Donc, juste avant, on va présenter l'exposition Voir plus loin, qu'est-ce qui est ici, de José-André Sauvoie, puis tout de suite après,
oui,
La Nuit des Anguilles. Puis c'est une exposition qui est bien attendue.
Oui.
Nous, on a présenté le travail d'Isabelle Demers pour la première fois à Papier cet automne à Montréal.
Oui.
Et je dois vous dire qu'elle a vraiment fait sensation, Isabelle, là, auprès du public de Montréal. Toutes ses œuvres se sont envolées. Très bien qu'elle s'est retrouvée dans une situation où elle avait une exposition, mais qu'elle avait toutes vendu ses œuvres. Donc, on est vraiment content pour elle.
Oui.
C'est une exposition où elle va continuer son travail de pyrogravure, donc un travail de brûlure, mais elle le fait pas sur bois, mais sur papier.
Oui.
Donc, en faisant la pyrogravure sur papier, ça lui permet par la suite de continuer le travail sur la surface avec de l'aquarelle, du découpage. Elle vient ensuite recoller les morceaux,
mm-hmm,
puis vraiment créer des petits univers à l'intérieur des cadres qui sont un peu en 3D aussi. Il faut dire, quand elle fait des collages de pyrogravure, c'est plein de petits morceaux qu'elle vient assembler puis qui ont une dimension dans le cadre. Et puis, La Nuit des Anguilles, c'est une exposition où elle va continuer cette pratique-là de créer des petits écosystèmes un peu magiques, un peu surréalistes, où les animaux sont un peu étranges, un petit peu pas méchants, là, mais qui sont un petit peu curieux, qui piquent notre curiosité, mais aussi qui sont très attachants. Et puis, La Nuit des Anguilles, ce sera tout un monde de batraciens, de créatures sous-marines, de poissons,
wow,
de grenouilles,
ouais,
etc.
Ah ouais. Alors, pour ceux qui aimeraient aller sur votre site là, pour avoir toutes les informations là-bas, pour voir toute la programmation d'hiver, parce qu'on est à la fin de notre conversation, de notre entrevue comme ça, quel est le dernier message que vous avez à lancer à ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés, s'ils sont pas de Québec, nous les Montréalais. Moi, je sais qu'en été, si j'ai une opportunité, je vais faire un petit saut à Québec. Je ne manquerai pas de passer dans ce quartier d'artistes d'ailleurs et faire un petit crochet là, à Galerie A, jeter un coup d'œil, anonymement parlant, bien sûr. Je ne vais pas venir vous déranger dans votre bureau, ne vous en faites pas. Un dernier mot à nos auditeurs, s'il vous plaît, pour ceux qui auraient envie d'aller visiter votre galerie quand ils seront à Québec.
Ben, on est assez fréquemment à Montréal, tant pour le Galerie Week-end que pour la Foire Papier. Donc, vous pouvez nous surveiller pendant ces événements-là.
Oui.
Vous pouvez nous retrouver en ligne au galerieart.ca.
Oui.
Avec le E et le A.ca.
Oui.
Donc, c'est une bonne façon de suivre toutes nos activités. Puis, comme vous dites, si vous passez à Québec, là, c'est dans le quartier Saint-Roch, au 261 rue Saint-Vallier, du jeudi au dimanche, midi à 5 heures.
Merci beaucoup, la grande fondatrice de Galerie A, Anne Damour McDonald. Et puis, je vous souhaite un très bon vent dans votre nouvelle, dans votre carrière. Dans la prochaine fois, là, je sais que vous avez tellement voix d'exposition que je ne vais pas vous lâcher. je vais t'entendre vous inviter pour parler des nouvelles expositions. Comment, après un an, comment est-ce que vous vous sentez dans ce quartier d'artistes? Vous êtes entouré d'artistes. Comment ça marche, les différentes expositions? Et au plaisir de vous réentendre. Et bonne soirée à vous et à bientôt. Et bonne exposition dans votre nouvelle galerie, à votre nouvel emplacement, Galerie A.
Mais merci beaucoup.
Avec plaisir.
Turn your lights down low. And pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Yeah. Ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seems I was never on time. Still I wanna get through to you, girl, on time, on time. Wow. I want to give you some love. I want to give you some good, good loving. Yeah, I want to give you some good, good love.
Turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh no.
Nah, nah, nah.
Oh, let your love come shining in.
Nah, nah, nah.
Into our lives again.
Oui, c'était de Wellers avec la voix de Bob Marley, la voix de Lauryn Hill, Turn Your Light Down Low. Voilà, merci à toi Nicolas, on se retrouve demain. Voilà, tu m'échappes pas là. Et on dit merci à Stéphane Baudry pour la chronique plein air et à notre invitée Anne Damour McDonald, la fondatrice de Galerie A à Québec. Si vous faites un petit crochet là-bas, n'hésitez pas à Québec d'aller visiter le nouvel emplacement de cette galerie-là. Allez, et puis je dis merci à nos auditeurs et auditrices qui nous sont fidèles. Hein, oui. Même à ceux qui viennent de s'ajouter, à ceux, celles qui viennent de s'ajouter. On se retrouve demain, à la même heure sur les ondes de Canal M. Faites escale ici, à escale 17-18. En semaine, 17-18, bien sûr. Allez, ciao.